capote pour saluer les bénévoles. Et finalement, la partie difficile pour certains et facile pour d'autres. C'est préparation des événements, de l'événement de victoire ou de concession. Bon.
Alors, les discours, parce que au cœur de cet événement-là, c'est le discours du chef. À l'heure actuelle, Mark Carney, est-ce qu'il a, et la question est bonne aussi pour Pierre Poilievre, est-ce qu'il a deux discours de prêt là, à 17h30 aujourd'hui, un en cas de victoire, un en cas de défaite, un en cas de peut-être même une troisième version au gouvernement minoritaire, et comment ça fonctionne?
Donc, il y a un discours avec le message principal, et par la suite, il y a des sections de discours en tant que « si tu perds ». Si tu perds, est-ce que tu démissionnes? Si tu perds, est-ce que tu restes? Est-ce que tu lances le signal que tu restes? Si tu gagnes minoritaire, si tu gagnes majoritaire, tu adaptes ton message. Mais le message central, gouverner pour tous les Canadiens, ou nous allons continuer à nous battre pour tous les Canadiens dans un cas de défaite. La toute fin, c'est une fois qu'il y a une projection. Il y a des petits changements mineurs qui se font. Et à la fin de l'exercice, une fois le chef au podium, qu'il soit gagnant ou perdant, il peut adapter certaines choses aussi.
Oui, parce que je pense à un chef qui, par exemple, là, c'est un jour d'élection, là, mais disons un chef qui perd l'élection, qui est battu dans son côté, je peux pas croire que cet après-midi, il pense à ce scénario-là. Là, il doit pas se préparer à ça.
Non, et d'habitude, il y a les pointages internes. Ce que je dirais pour aujourd'hui, c'est... Tous les chefs des partis d'opposition, M. Blanchet, surtout M. Singh, doivent être un petit peu préoccupés sur est-ce qu'ils vont gagner leur circonscription. Okay. Surtout M. Singh.
OK. Tu dis, à l'heure où il est, là, pour tous les chefs, ils sont une boule d'anxiété. Toi, comment tu as vécu ça au fil du temps avec Stephen Harper? Est-ce que tu l'as senti? Tu sais, de l'extérieur, Stephen Harper, c'est M. imperturbable et tout. Est-ce que tu sentais sa nervosité, son angoisse le jour du vote?
Oui, et il demandait, je dirais à chaque 45 minutes, 75 minutes, il demandait est-ce que le vote sort? Je dois t'avouer une autre chose. Et ça, c'est une réalité de brise-cœur. L'élection de 2004, puis j'étais très jeune, naïf, inexpérimenté, plein d'ambition. Je pensais qu'on allait gagner. Et je me souviens être assis tout seul sur une chaise dans la salle de conférence après que les discours étaient finis. Puis c'est vraiment un moment de brise-cœur parce que tu es fatigué. Tu as tout donné. Et ils ont tous réellement tout donné. Et l'autre moment... C'est en 2011, quand on a gagné une majorité, j'ai fait deux choses. J'ai sauté sur le dos de mon meilleur ami qui était chef de cabinet, Ray Novak. Et c'est une des rares fois où Stephen Harper m'a pris dans ses mains. C'était un moment où...
Dans ses bras, là, vous avez fait une accolade.
Exact, on a fait une accolade. C'était la première fois où on se disait, ça a valu la peine. Donc ce soir, il y aurait des déçus, il y aurait des contents, mais ce que je dirais... Il y a toujours une prochaine fois.
Comment, en 2015, Stephen Harper, il a perdu contre Justin Trudeau, un peu à la surprise générale, parce que Justin Trudeau était troisième dans les sondages au moment du déclenchement de l'élection. Hein, Thomas Mulcair et le NPD étaient en meilleure position. Comment il a vécu ça, Stephen Harper?
Je pense que Stephen Harper, c'est 2004. 2004 a été très difficile pour lui.
Ah oui?
Parce que... Ça allait mal pour les libéraux. Il y avait le scandale des commandites. Puis là, je vais raconter une vérité que très peu de gens savent. Après l'élection de 2004, pour quelques jours, Stephen Harper a songé démissionner.
Ah oui.
Et c'est son caucus et c'est son entourage qui l'ont convaincu que c'était un pas dans la bonne direction. Le paquebot libéral qui était censé gagner la plus grande majorité de l'histoire du Canada était à genoux, minoritaire.
Avec Paul Martin.
Avec Paul Martin. Je dirais que 2015, c'était... Il y a deux éléments en 2015. Il ne faut pas oublier qu'au tout début, c'était Thomas Mulcair qui
était la menace,
qui était la menace et potentiellement... de battre Stephen Harper. Je dirais que la déception était moindre de ne pas gagner l'élection, mais plus grande de perdre contre Justin Trudeau.
Ah, OK, ça c'est intéressant. Dimitri, tu restes là, on va parler avec Valérie, on va parler avec Michel, et puis à 18h, on va mettre la table, on va placoter, oui, en vue de notre soirée électorale.
98.5, circulation.
Le pont Samuel de Champlain, de la Vérendrye, tunnel La Fontaine, on était toujours dans le secteur de Yves-Prévost, une quarantaine de minutes au moins. C'est avant de Mortagne en direction de Montréal. Pour Mercier, on est rendu après Clément, métropolitaine en direction ouest, entre la Cordaire et Descaries. C'est par intermittence, 40 Est, Cavendish, 40 Ouest après Morgan, pont Charles-de-Gaulle, Henri Bourassa, 20 Ouest à partir de Turcot. Autoroute des Laurentides, secteur Saint-Martin-Laval, également entre Blainville et Mirabel. 13 Sud et Cmoire, 13 Nord, c'est avant Côte-de-Liesse et avant la 640. Et on a toujours un service normal pour le métro. Levez vos sacs aux produits d'ici, obtenez 250 points moins à l'achat de produits participants d'ici chez Métro, Jean Coutu, Super C et Brunet. Détails au programme moi.ca.
IKEA offrira 15 % de réduction sur presque tout pendant les journées Hey. On a donc décidé de ralentir la vitesse de cette publicité de 15 %. Dans un monde où tout va vite, on s'est dit que ça se prendrait bien. Aussi bien que 15 % de réduction sur presque tous vos achats IKEA. Du 2 au 4 mai prochain, les membres IKEA Family pourront profiter de 15 % de réduction sur presque tout en magasin pendant les journées Hey de IKEA. Une bonne façon de rester zen.
En montant dans une Prius hybride branchable toute neuve, vous pourriez tout d'un coup accepter de conduire des amis à un festival de musique au beau milieu de nulle part. Même si la musique est d'un style dont vous ignoriez totalement l'existence avant ce matin, tout ce qui reste à faire, c'est de la ramener à la maison. Pour découvrir de nouveaux modèles épatants comme la Prius hybride branchable, visitez achetermatoyota.ca ou passez chez votre concessionnaire du Québec et repartez en Toyota.
On voit de plus en plus de trottinettes électriques et comme automobilistes, il faut leur faire attention.
Oh oui, et nous, les usagers de trottinettes, on a un slogan. Trottinette, ça rime avec pas fait en épinette.
Quoi?
Dans le sens qu'on est vulnérable.
Ah, y a-t-il d'autres options?
À trottinette, on se protège de la margoulette. Ou encore, je vois une trottinette, je ralentis net.
Ouais, je vais prendre celui avec épinette.
C'est le meilleur, hein?
Ouais, c'est surtout qu'il rappelle aux conducteurs de faire attention aux trottinettes, de ralentir et de garder leur distance. La sécurité routière, j'embarque. Un message du gouvernement du Québec.
Envolez-vous avec Allegiant Air pour un voyage sans escale de Plattsburgh à l'aéroport international de Myrtle Beach avec un aller simple à partir de $50 américains. Toujours sans escale. Des tarifs toujours bas. Consultez Allegiant.com afin de vous informer des rabais du jour et planifiez votre voyage. Offre valide avant le 4 juin 2025 pour les voyages entre le 15 mai 2025 et le 16 novembre 2025. Place et sièges sont limités. Certaines restrictions s'appliquent. Visitez Allegiant.com pour les détails.
T'es-tu tanné que ta boîte à lunch te laisse tomber?
Ouais.
Tu veux quelque chose de fraîchement préparé?
Ouais.
As-tu 5,99?
Ouais.
Si t'as répondu...
Ouais.
C'est le temps pour un 6 pouces italien BMT ou un poulet teriyaki aux oignons d'eau fraîchement préparé de Subway pour seulement 5,99. Hey, ça t'embauche un coin, ça, hein? Deux 6 pouces fraîchement préparés pour seulement 5,99 chacun. Subway, c'est frais comme ça. Fraîchement préparé à la commande dans les restaurants participants. Extra taxes et frais de livraison dessus.
Nokian Tire, c'est un parcours exceptionnel. Robuste, sécuritaire et durable, Nokian Tire One, c'est le plus conçu pour vous. Jusqu'au 20 juin, recevez jusqu'à $70 de remise postale. Nokian Tires, disponible chez Point S Robert Bernard. 75 ans, à faire rouler les gens d'ici.
Pour tout suivre en direct, pour ne rien manquer lors de vos déplacements, téléchargez l'application Cogeco Média. Cogeco Média. Politique américaine. Avec Valérie Beaudoin.
Alors Valérie, dans quelques heures, on va co-animer ensemble notre soirée électorale sur Cogeco Média. On a bien hâte.
J'ai très hâte, dès 21h.
Ouais.
J'espère qu'on aura beaucoup de nos auditeurs qui vont nous retrouver, restent avec nous jusqu'à 18h30 toute la soirée. Dans le fond, restez juste sur les ondes du 98.
Oui, puis il y a Mario Langlois qui est là avec les amateurs de sport entre les deux. Donc, c'est les deux passions des Québécois.
Voilà.
Le hockey jusqu'à 21h, puis les élections
c'est
après la politique.
Comme ça
fait qu'une soirée magique. Mais avant, on va parler de politique américaine. Là, il y a une nouvelle qui est plutôt consternante qui suscite énormément de controverses aux États-Unis.
Oui, les expulsions de citoyens américains, des enfants, et je m'explique parce que là, on se dit, bon, comment ça, des enfants américains sont expulsés, mais par exemple, si c'est des parents qui sont arrivés ici de façon irrégulière, qui n'ont pas un statut légal aux États-Unis, qui ont des enfants, eh bien, c'est dans la Constitution, même si Donald Trump veut le changer ça, là, mais ça, c'est un autre débat, ils sont citoyens américains. Donc, ils peuvent aller à l'école, ils n'ont pas peur d'être expulsés, ils peuvent avoir tous les services comme n'importe quel Américain. Et là, on a plusieurs cas qui sont devant les tribunaux en ce moment où il y a des plaintes qui ont été effectuées d'enfants, donc Américains, de parents qui peuvent être en situation régulière, comme je viens de le dire, qui ont été expulsés sans avoir droit à des audiences, sans avoir droit même à parler à leurs avocats. Et ça, c'est très, très, très inquiétant au niveau du respect des droits. C'est la base des choses. On sait qu'il y a eu des avions de gens qui ont été expulsés, qu'on disait associés, par exemple, à des groupes criminalisés, à des cartels, qui sont déjà, désormais considérés comme des groupes terroristes et tout ça. Et même dans ces cas-là, on disait, ils ont droit de se défendre. Ils ont droit de dire pourquoi ils ne sont pas associés à tel groupe criminel ou autre. Alors là, dans un cas d'un enfant de 2 ans, par exemple, j'en parlais en tour de table, il y a un enfant de 2 ans avec sa mère qui va dans un rendez-vous de routine, justement, en raison de son statut irrégulier. Alors, elle fait ce qu'elle doit faire, hein, se présenter avec le passeport de l'enfant, tout ça, se rendre sur place. Et finalement, on décide de prendre les 2 enfants, parce que dans un cas, il y avait 2 enfants, là, il y a plusieurs histoires. Dans tous les cas, on décide de prendre cette famille-là, de les mettre à part, et là, après ça, on n'a plus de nouvelles. Les avocats ne peuvent pas parler avec les familles, et on apprend par la suite qu'ils ont été mis à bord d'un avion et qu'ils ont été expulsés. Dans un cas, il y avait aussi un enfant de 4 ans qui avait des traitements pour le cancer. Alors là, qu'est-ce qui va arriver avec cet enfant-là qui est en plein traitement et qui quitte pour un pays où elle n'aura pas les, où il ou elle n'aura pas les mêmes soins de santé. Alors tout ça choque beaucoup le public américain. Ça nous choque ici aussi. Hein?
Bien sûr.
Tantôt j'en parlais en tour de table, puis on a tout eu un espèce de sentiment de tristesse aussi par rapport à ça, de ces jeunes enfants-là. On est loin de dire on va expulser en priorité les méchants immigrants, les criminels et tout ça. On est là avec des gens qui sont ici depuis plusieurs années, qui travaillent ici, qui essaient d'avoir un statut régulier dans bien des cas, qui ont des enfants. Les gens ont peur d'envoyer les enfants à l'école, des traitements à l'hôpital. Penses-tu qu'en entendant des histoires comme ça, il y en a qui vont dire « je vais aller à l'hôpital avec mon enfant »
Ben, bien sûr que non.
Est-ce qu'ils vont vouloir faire ça? Est-ce qu'ils vont vouloir sortir de la maison, aller travailler? Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'inquiétudes. Alors, on verra ce qui va se passer. La Maison-Blanche et le tsar de l'immigration a réagi en disant « mais vous voulez pas qu'on divise les familles ». Alors, qu'est-ce qu'on fait? On les envoie en même temps, puis on dit finalement « ben la mère voulait pas être séparée de son enfant ». OK, mais est-ce qu'elle avait eu un autre choix? Est-ce qu'il y avait un choix qui a été présenté? Selon les avocats, absolument pas. Alors, on défend cette politique-là en disant que c'est un choix parental d'avoir décidé de faire un enfant aux États-Unis quand tu le sais que tu peux être expulsé et que ce sont finalement de mauvais parents, entre guillemets, et que c'est de leur faute tout ce qui s'est passé comme ça.
La seule consolation qu'on peut trouver, c'est que les sondages démontrent que la politique immigratoire de Donald Trump est de moins en moins populaire auprès des Américains.
Oui, dans un dernier sondage, entre autres, de CNN, où Trump, je fais la parenthèse, de 41% de trop d'approbation. Dans plus de 70 ans, c'est la première fois qu'on voit un aussi bas taux à 100 jours d'une présidence. Ça, c'est la première des choses. Mais au niveau de l'économie, au niveau de l'immigration, au niveau d'à peu près tous les dossiers où Donald Trump était, je veux dire, au-dessus de la barre des 50% là, d'intérêt, d'approbation, tout ça, on est à la baisse parce qu'on n'est pas satisfait de ces politiques-là. Il y a beaucoup de gens qui se disent « Parfait, expulsez-les, ces migrants-là qui sont des criminels, mais ça ne me concerne pas moi. Hein. » Il y avait, par exemple, des latino-américains qui disaient « Je suis en statut régulier, mais je voterai quand même pour Donald Trump si je pouvais. » Mais là, il y a des gens qui déchantent un petit peu avec tout ça.
OK, Vladimir Poutine veut proposer une trêve la semaine prochaine.
Oui, alors une trêve de 3 jours, très courte trêve qu'il a mis dans les médias russes. On a appris ça tôt ce matin, hein, qu'il voulait faire ça. Donc là, on dit, mon Dieu, bonne nouvelle, hein, Vladimir Poutine finalement veut une trêve. Mais la Maison-Blanche, comme beaucoup de gens d'ailleurs, se disent, ben c'est pas suffisant. C'est pas ça qui nous démontre qu'il y a de la bonne foi nécessairement, qu'on va aller vers un cessez-le-feu permanent. Je rappelle aussi que Donald Trump a donné un ultimatum de 2 semaines. Il dit, dans 2 semaines, si c'est pas réglé le cessez-le-feu, nous, on recule. Alors, on met de la pression supplémentaire sur Vladimir Poutine, comme un peu on en a mis sur Zelensky aussi. C'est comme, c'est même pas le jour de la marmotte, là, c'est à l'inverse à chaque jour. Une journée, c'est la faute de Poutine, l'autre journée, c'est la faute de Zelensky. Alors, on s'entend pas.
Trump a même écrit en fin de semaine que peut-être que Vladimir Poutine se moquait de lui.
Ah,
ben, viens, 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 viens,
Oui, on pourrait analyser ça, la psychologie de Vladimir Poutine avec Donald Trump, et se dire que oui, c'est une des hypothèses, parce que je t'en ai parlé il y a quelques semaines, la stratégie du Kremlin, selon plusieurs sources, c'est vraiment justement de faire perdre son temps à Donald Trump, de dire qu'on est d'accord, qu'on veut un cessez-le-feu, quand finalement, on veut pas ça avant des mois et des mois, voire des années, tant qu'on n'a pas pris le contrôle, tant qu'on n'a pas ce qu'on veut de ce deal-là, de cette entente-là. On sait que Zelensky aussi, pour les gens qui ont raté ça ce week-end, a rencontré en marge des funérailles du pape, a rencontré Donald Trump, des images assez spectaculaires.
Les deux
sont seuls à une petite table. Donc ça s'est fait. Et finalement, donc on verra si on dit que ça a été constructif, on veut aller de l'avant, on dit que Zelensky a demandé plus d'armes. Donald Trump avait pas l'air fermé à la question. Est-ce qu'il y a une lueur d'espoir?
C'est quand même après cette rencontre-là que Trump a écrit, coudonc, est-ce que Vladimir Poutine se moque de moi? Alors c'est clair que Zelensky a réussi à glisser quelque chose dans sa tête. Là.